Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Voilà, je voudrais vous donner une bonne nouvelle. C'est que nous sommes très très contents, Myriam et moi-même, d'être avec vous ce matin.
Amen.
Eh oui. C'est vrai que nous pouvons nous réjouir. En venant sur Redon, nous nous sommes arrêtés auprès d'une belle petite fontaine que vous connaissez tous, probablement. C'est entre Saint-Nazaire et Redon, alors devinez. Voilà. Et c'est vrai que nous étions en train de contempler, on a pris 5 minutes, hein. On était en train de contempler la nature. C'est magnifique le printemps. Hein. Ouais. Et on se disait, il y a 20 ans, au printemps 2004, nous arrivions à Redon et à Saint-Nazaire. 20 ans. Ça représente hein, 20 ans hein, dans la vie d'une personne. Et c'est vrai qu'on était un petit peu étreint dans notre cœur parce qu'on a dit, on a vécu quand même de belles choses avec vous. Ouais, ouais, c'est vrai. Il y a eu des temps plus difficiles, mais c'est normal, c'est la vie. Et je crois qu'on en a toujours tiré vraiment un avantage, une bénédiction. Alors, je voulais simplement... dans le cadre de ce que nous avons partagé ce matin et de ce que nous allons en effet entendre, eh bien, il y a quelque chose de formidable. C'est que Dieu nous a sauvés, pourquoi ? Les uns et les autres. Dites-moi, il vous a sauvés pourquoi ? Pardon ? Oui, bien sûr, bien sûr. Pour partager naturellement, eh bien, ce paradis, non pas terrestre, mais céleste.
Amen.
Puis il y a une chose que je voudrais, que j'ai à cœur de vous dire, c'est qu'il nous a sauvés pour le servir. Et je crois que dans les temps dans lesquels nous sommes aujourd'hui, eh bien, dans l'Église évangélique, il y a véritablement, c'est vrai, beaucoup de zèle, mais il y a aussi des difficultés, des problèmes. Vous savez que nos anciens, enfin ceux qui ont été véritablement nos prédécesseurs, ils partaient avec rien. Et ils ont fait un travail formidable. Cette semaine, nous étions à la Convention nationale des pasteurs ADD de France. Et c'est vrai que nous avons été réjouis. Parce que quand on voit qu'ils étaient une dizaine, une quinzaine, les pasteurs, et aujourd'hui, nous étions 800.
Amen.
Ouais. Avec des petites églises, avec des moyennes, avec des grandes églises. Et on se dit que le Seigneur a fait une œuvre dans notre pays. Alors, c'est pas l'Amérique, hein. Peut-être tant mieux. Mais toujours est-il que le Saint-Esprit a travaillé. Je dis bien le Saint-Esprit. Il a travaillé à travers des hommes et des femmes qui ont fait le sacrifice de leur vie, toute leur vie. Et finalement, au fur et à mesure, eh bien, il y a eu des conversions, il y a eu des engagements, il y a eu de grandes choses aussi, des miracles. Et vous êtes là pour le dire, vous avez vécu certainement des choses qui dépassent le naturel et qui touchent au miraculeux de Dieu, au surnaturel. C'est pour ça que nous avons la foi en Dieu. Parce qu'il y a eu des choses qui ont marqué notre vie. Et c'est vrai qu'il ne faut pas l'oublier. Il y a un vieux cantique que vous connaissez, « Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux et tu verras combien le nombre hein, immensément grand. » C'est vrai. Ça, c'est vrai. Alors, c'est vrai, pendant ces 20 années, on a commencé par notre petite salle. Charles Sillard, le Seigneur nous a fait grâce aussi ici. Formidable. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas 10 000 personnes, Parce que s'il y avait 10 000 personnes, ce serait toute la ville de Redon qui serait convertie. Hein, si, je ne sais pas combien il y a d'habitants, mais toujours est-il que... Mais en tous les cas, il y a une œuvre. Il y a eu des frères qui étaient là au départ, qui sont maintenant dans la gloire. On en connaît, on se souvient, qui ont été vraiment des hommes de Dieu. Ouais, des hommes de Dieu, et nous n'oublierons jamais le souvenir. Et puis, il y a eu du passage aussi, des gens qui sont venus, qui sont passés, et qui sont partis. Maintenant, ils sont partis peut-être avec dans leur cœur le message de l'Évangile. Ils ont peut-être rejoint une autre communauté, où là, on prêche Jésus-Christ, hein, je pense. Il faut être naturellement dans ce cadre-là. D'autres sont partis dans d'autres endroits de notre pays, et puis peut-être beaucoup plus loin. Il y a aussi de ceux qui ont rendu témoignage, enfin nous rendons tous témoignage, et nous ne saurons jamais ce que sont devenus ces gens à qui nous avons rendu témoignage, qui se sont convertis, et qui peut-être ailleurs, eh bien, ont été appelés par Dieu pour le servir. Et il y a eu des églises qui se sont constituées. « Jette ton pain à la surface des eaux, et avec le temps tu le retrouveras. » Maintenant, de savoir ce qui s'est passé, ça ne nous regarde pas. C'est l'affaire de Dieu. Mais beaucoup plus que nous le pensons, il y a une œuvre qui se fait. Et ce matin, j'ai eu à cœur de vous donner un message assez particulier, inédit. Et on va le lire dans notre Bible. On va le lire tout de suite. Et je vous propose un texte tout simple. On en reprendra d'autres tout à l'heure. Alors, livre des Proverbes, chapitre 25, verset 11. Et j'aimerais justement vous donner l'explication de tout cela. 25, verset 11, « Comme des pommes d'or sur des ciselures d'argent, ainsi est une parole dite à propos, comme un anneau d'or et une parure d'or fin, ainsi est une oreille docile et le sage qui réprimande. » Je m'arrêterai à la première partie de ce verset, comme des pommes d'or sur des ciselures d'argent. C'est intéressant de prendre en compte que Dieu a fait des choses formidables à partir de rien. C'est vrai, il faut bien le reconnaître, à un moment ou à un autre, eh bien, avec les principes de l'Évangile et les principes de Dieu, ça commence toujours tout petit, le grain de sénevé. Et ça devient un arbre, quelque chose de formidable. Et nous avons été encouragés dans notre congrès, parce que nous avons entendu, véritablement, c'est vrai, des pasteurs qui souffrent, beaucoup de souffrance dans le corps pastoral, mais il y avait aussi beaucoup de joie, indépendamment de ce que nous sommes ou pas conscients des choses où Dieu a fait son œuvre. J'ai titré le message de ce matin « L'art de bien faire ». Et comme j'écoutais les louanges, vos louanges ce matin, comme cela nous a été rappelé par nos frères et notre frère qui faisait chanter, eh bien, dans vos louanges, il y avait cette aspiration profonde à faire bien, à bien faire pour la gloire de Dieu. Oui, oui, je l'ai entendu. Hein. Et moi, ça me réjouit tout ça, parce que quelquefois, on pourrait penser que l'Église eh bien, est chancelante, elle n'est pas toujours, finalement, eh bien, prestable. Mais ça, c'est la nature même des Églises, de toute façon. Hein. Parce que nous avons un ennemi, hein. Ce n'est pas l'homme, hein. C'est le diable. Et lui, il a résolu, finalement, eh bien, mais ce n'est pas d'aujourd'hui, de nous déclarer la guerre, de toute manière. L'art de bien faire. Hein. Nous sommes sauvés pour servir. Et j'aimerais justement donner un petit peu un schéma. Vous savez, l'œuvre de Dieu, l'Église de Dieu dans une ville ou ailleurs, dans un pays, c'est en quelque sorte une courbe. Voilà, c'est une courbe. Nous avons eu des pasteurs évangélistes qui avaient des ministères d'évangélisation. C'est la courbe montante. Et pendant des années après la dernière guerre, on a vu des églises se multiplier un petit peu partout. À quel prix a pris du sacrifice de ces hommes, de ces familles, de tous ces gens. Et puis, nous sommes arrivés, là, pendant au moins une trentaine, quarantaine d'années, ça monte, c'est les temps héroïques. Et puis, à un moment donné, nous sommes arrivés sur un plateau. C'est les temps de la gestion de l'Église, où là, eh bien, l'Église, c'est non seulement a fait de l'évangélisation, mais elle s'est constituée, elle s'est enrichie, elle a été enseignée, etc., etc. Et dans les cas les plus négatifs, eh bien, la courbe est en train de descendre aujourd'hui dans notre monde. Mais il y a une chose dont nous devons être conscients, c'est qu'après les temps héroïques, après la gestion, le plateau de la gestion pendant des années, les pasteurs véritablement ont enseigné la parole de Dieu, l'Église a grandi, elle s'est constituée, etc., etc. Et maintenant, après la gestion, il nous faut la vision. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que s'il n'y a pas la vision, nous allons descendre. Vous comprenez, c'est un sens très, très simple, hein? Et c'est ça ce que j'aimerais vous parler, à travers quelques textes. Et nous voyons que dans notre message, enfin dans ce que nous avons lu, l'art de bien faire et de garder cette vision et d'être renouvelé dans notre vision, dans les temps qui sont les nôtres. Il n'y a plus rien à voir avec les années de réveil des années 50, 60, jusqu'à 90, nous pourrions dire, hein? C'est plus pareil, notre monde a changé. Mais il y a une chose qui ne change pas, c'est le message de l'Évangile.
Amen.
Et la grâce que Dieu est en train d'apporter à nos nouvelles générations pour qu'à leur tour, eh bien, dans la croissance de l'Église, nous puissions tous aller plus loin encore. Parce que Dieu n'en a pas fini. Hein. Tant qu'il n'est pas revenu, il y a encore cela. Alors, l'art de bien faire, c'est servir dans l'excellence. Je mets un petit bémol. Dieu a choisi des êtres faibles, des êtres qui, quelque part, nous sommes loin d'être parfaits, mais c'est ces hommes-là, ces femmes-là, qu'il a choisi pour faire son œuvre. Il aurait pu prendre des anges. Des anges saints, des saints anges. Maintenant, nous sommes des hommes saints. Nous sommes en voie de sanctification. On verra ça là-haut. Alors, des pommes d'or, il nous est parlé. Dans un texte, il nous est parlé de pommeaux d'or. Un pommeau, ça peut se mettre sur une canne. Vous représentez un petit peu la chose, hein? Ou sur un parapluie, par exemple. Bah, remarquez, ça peut servir, hein, d'avoir un parapluie avec un pommeau en or, hein? Ça, c'est sûr. Et il nous est dit que tout cela, c'est ciselé d'argent. L'or et l'argent. Il y a une autre version, c'est la version du rabbinat français. La Bible, donc, du rabbinat français, juif, naturellement, enfin, la Bible en hébreu, voilà, c'est ça. Il nous est parlé de vases d'argent ou d'un écrin d'argent, un pommeau d'or sur des vases d'argent ou, tout simplement, eh bien, un écrin d'argent. Tel, nous avons lu tout à l'heure, telle est une parole dite à propos. Le monde parle à tort et à travers. Nous n'avons jamais été autant dans les fake news, dans des mensonges et honteux. Quand on entend ce qu'on entend, on se dit, mais c'est pas vrai, on n'est plus dans un monde de vérité. Hein? Et à tous les niveaux d'ailleurs. Hein? Et nous voyons que, ça c'est Chouraki qui le dit, mais je ne veux pas me perdre dans les traductions et dans les versions différentes. Hein? Autrement dit, eh bien, c'est un objet d'or, la parole est un objet d'or. Parce que c'est elle qui fait naître. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, de l'or. Et nous voyons que c'est une parole qui est bien tournée, inspirée surtout. Parce que nous pouvons toujours dire des belles paroles, bien sûr. Hein. Et il nous est bien montré que tout cela est une valeur qui vient de Dieu, et c'est précieux. Il y a deux choses à distinguer. Il y a le travail de l'orfèvre, et les ciselures, en orfèvrerie. C'est intéressant de prendre en considération. Un orfèvre, c'est comme une dentelière. C'est comme un horloger. Il y a des métiers qui demandent Alors naturellement, une formation, et une formation tout à fait particulière, et qui demande de l'adresse. C'est formidable de voir un horloger réparer une montre. Hein. Moi, j'ai eu plusieurs montres. J'ai voulu les réparer, mais je les ai mis en morceaux, avec mes grosses mains. Non, mais c'est vrai, je désespère. Hein. C'est vrai, je désespère. La dentelière, c'est formidable, hein, vous savez. Dentellerie de Calais ou d'Alençon, etc. C'est une merveille hein, de voir comment ils arrivent à faire les choses. Et ça se fait dans le temps, hein, pas de précipitation. Ça, c'est à... Oui, parce qu'autrement, on mélange les fils. Hein. La définition d'un orfèvre. C'est un artisan qui fabrique des objets de parure. Ouais. Le but, c'est la parure. C'est la beauté. C'est l'éclat. C'est une décoration en métal précieux finement travaillé. Et la ciselure, puisqu'il est parlé de l'ouvrier et puis de son travail, de son ouvrage, c'est un travail de sculpture. Alors avec naturellement des instruments, des couteaux, des ciseaux, enfin bon, j'ignore un petit peu tout ce que cela peut comporter. Et il y a naturellement, eh bien là, une image qui apparaît, une gravure faite au ciseau dans les règles de l'art. Ça s'apprend. Une formation qui est naturellement, eh bien, et c'est fait avec beaucoup de soin parce qu'il y a, véritablement, c'est comme celui qui taille des diamants. Une erreur sur un diamant, le diamant est perdu. Hein. Alors, c'est quelque chose qui est, en effet, eh bien, qui peut arriver. Et c'est toujours la manifestation, eh bien, de la précision et de l'intelligence, une intelligence de beauté pour rendre véritablement, ou faire paraître la beauté des choses. L'or et l'argent, dans la Bible, est le symbole de la grâce et de la foi. On le sait, ça. J'aimerais que nous lisions un texte, tout simplement, pour illustrer eh bien, cette parole, cette image, dans 1 Pierre, chapitre 1er, verset 7. Alors, on prend maintenant 1 Pierre, et on va naturellement eh bien, trouver cette... distinction qui nous est donnée pour 1 Pierre, et je vous ai dit le verset 7. Qu'est-ce qu'il nous est dit ? C'est là ce qui fait votre joie, nous dit Pierre, quoique maintenant il faut, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Eh oui, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, et pour résultat, la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. Il nous est bien précisé, parce que nous marchons comme des aveugles, vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, et c'est vrai, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Ça, c'est quelque chose qui est véritablement eh bien, explicité par Pierre pour nous dire eh bien, que c'est quelque chose d'une grande importance, une œuvre accomplie au moment opportun. Il y a des temps pour tout. Il y a un temps pour tout sous le soleil, nous dit le livre des Cantiques des Cantiques, me semble-t-il, au chapitre 3. Œuvre accomplie au moment opportun. Il y a des temps pour le royaume de Dieu sur cette terre, des temps d'évangélisation, des temps de gestion sur le plateau où on se dit, ben voilà, ben c'est bien, l'Église, elle progresse, mais elle progresse doucement, mais elle progresse. Mais attention, à la fin, il y a un précipice. C'est pas vers le précipice qu'il faut regarder. Il faut demander à Dieu à ce moment-là un autre temps, c'est le temps de la vision. Et la vision, nous la trouverons toujours, et je vais le détailler dans quelques instants, à travers non pas notre perfectionnement, notre connaissance, notre intelligence, toute humaine, charnelle, mais à travers la révélation que le Saint-Esprit peut nous donner, des temps nouveaux qui viennent sur le monde. Et vous savez, ils viennent sur le monde, mais n'ayons aucune crainte, nous appartenons au Seigneur, il va venir des temps difficiles. Ouais. Et vous le savez, nous avons tous, finalement, et bien là, en mémoire, tout ce qu'on nous dit tous les jours. Et c'est peut-être des temps qui vont être particulièrement sanglant. Mais une chose qui est certaine, et je voudrais le redire en passant ce matin, le Seigneur revient bientôt et il va enlever son Église. Ça sera véritablement le sort des incrédules, le sort des révoltés, et il y en a, le sort de ceux qui, eh bien, n'ont jamais accepté la grâce de Jésus-Christ, la foi en Jésus-Christ, et qui là, bien véritablement, vont être malheureusement les victimes de ces temps-là. Donc nous avons besoin d'une vision pour espérer. Nous avons besoin d'une vision pour travailler encore. Parce que moi je dis que le diable est au travail, mais le Saint-Esprit est au travail. Hein. Et il veut réveiller l'Église. Il veut y avoir certainement eh bien, un souffle nouveau. Autant l'un, autant l'autre. Et je pense que l'Église a besoin. Nous nous sommes amortis à travers le matérialisme, à travers l'amour de l'argent, à travers toutes sortes de choses. Et peut-être que l'Église a perdu véritablement sa vision, mais il faut la retrouver et Dieu va nous la donner. Vous savez, les grands réveils du 19e siècle, ou du 20e siècle surtout, avec la Pentecôte première au moment où Jésus est monté au ciel, la Pentecôte dernière, elle est pour nous, elle est à venir, elle a déjà commencé déjà depuis quelques décennies. Hein. Et je crois qu'il faut être debout, non pas comme les vierges folles, qui n'ont pas fait de provision d'huile. Attention, attention, parce que ça c'est important. Au temps opportun, le Seigneur a un temps pour réveiller son Église et pour la mettre au travail. Ça ne durera peut-être pas très longtemps, mais une œuvre qui est faite à propos, une œuvre qui est faite à bon escient, parce que Dieu va nous montrer ce qu'il s'agit de faire. La parole de Dieu associée à la prudence. Dans ce monde aujourd'hui où il y a tant de sectes, tant de brassages, tant de contre-vérités qui apparaissent comme la vérité et qui font, eh bien que là, ça peut enthousiasmer les chrétiens qui sont un petit peu, là, un peu bancales. Faisons attention. Il nous faut que nous soyons réveillés sur la conscience de la valeur des choses, de notre propre témoignage, de notre propre salut. Eh oui, de la valeur de la parole de Dieu. Sans négligence. Parce que ça, c'est le problème des vierges qui, quelque part, entendent que le maître ou l'époux arrive et qui vont rien faire. On aura toujours le temps. Eh oui, mais la négligence. Que nous puissions être perfectionnés en compétence aussi. Et la compétence, c'est pas parce qu'on fait l'école biblique ou la fac de théologie ou toutes sortes de choses, c'est pas ça. Hein. Ça, c'est charnel, ça va donner du religieux, mais ça ne donnera pas la vie de l'esprit au sens où véritablement ce qu'on appelle le discipulat de l'esprit. Faire de nous des disciples, le faire dans la bienveillance et la bienfaisante, parce que le seul témoignage qui vaille... C'est que les gens qui sont à l'extérieur et qui nous voient vivre, nous, en tant que chrétiens, puissent ressentir que nous avons de l'amour pour eux. Et pas du jugement, pas de la condamnation, comme ça s'est fait dans, malheureusement dans nos églises. Hein. Ouais, jugement, condamnation, ceci, cela, etc. Mais comment nous sommes venus? Nous sommes venus par la grâce de Dieu. Et quand nous sommes le Seigneur nous a convaincus dans son amour. Et non pas parce que j'étais pas ceci et cela, etc. Et ça, c'est un témoignage, naturellement. Alors, avant d'aller un peu plus loin, j'aimerais simplement dire quantité, l'art de bien faire, l'art de faire le bien, eh bien, ce n'est pas la quantité qui convient. Aujourd'hui, on voit des églises qui se démènent parce qu'ils ont des pasteurs charismatiques, parce qu'ils ont des pasteurs qui ont finalement eh bien, des talents et tout ça. Alors, on fait feu de tout bois. Non, c'est pas comme ça. Non, la qualité ne s'y finit pas, pardon. La quantité ne signifie pas la qualité. Ça, je vous l'ai dit, je vous l'ai répété pendant je ne sais pas combien de temps. Et l'activité ou l'activisme, si on veut le définir, ne veut pas dire un zèle qui ne serait pas sanctifié. Oui, Paul le disait des pharisiens, ils ont du zèle, je le reconnais qu'ils ont du zèle, mais un zèle sans intelligence. Et la véritable intelligence, c'est le Saint-Esprit. Oui, c'est lui qui peut nous enseigner. Le savoir comment faire, le savoir comment dire, le savoir vers qui nous devons nous tourner. Parce qu'on peut multiplier les choses, hein. Mais si on se trompe de personne, si on se trompe de cible, ça ne donnera rien du tout. Ne dispersez pas, finalement, eh bien là, vos perles au pourceau. Vous connaissez, dans le sermon sur la montagne. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Mais ça veut dire que d'abord, tu te mets à genoux, tu pries, et Dieu va te donner la révélation. Remarquez, même à la retraite, vous savez, nous sommes encore en train de chercher. Nous sommes à l'automne de notre vie, et on demande au Seigneur avec Myriam, montre-nous ce qu'il y a encore à faire. On a été jeunes, on a fait beaucoup de choses, on a essayé beaucoup de choses. Et aujourd'hui, on se dit, Seigneur, montre-nous s'il y a une suite pour nous. Ou autrement, ben écoute, on s'inscrit dans un EHPAD et puis on attend que ça vienne. Non, on a encore envie. On a encore envie de parler à l'Église, on a encore envie de dire ce que le Seigneur veut vous dire à travers notre modeste ministère. Oui, tout simplement. Alors, activité ne veut pas dire zèle. Non, parce que nous savons que ce zèle, eh bien, Dieu, sur ce pommeau d'or, ciselé d'argent, eh bien, nous voyons qu'il veut encore que nous montrions. C'est un sceptre, hein, quelque sorte un pommeau, hein, ça on peut dire. Hein. Mais ce n'est pas nous qui sommes les rois dans cette affaire. Nous montrons, vous savez, comme il s'appelait Mardoché quand il s'est approché du roi Assuérus pour demander la grâce pour le peuple qui devait être, comment peut-on dire là, vous savez le mot là actuellement, génocide. Et voilà, c'est ça. Hein. Il est venu ici, voilà. Et il a été entendu, hein, finalement. Alors, ceci dit, des pommes d'or ciselées d'argent. Je vous propose encore d'ouvrir votre Bible dans 1 Corinthiens, nous l'avons vu tout à l'heure. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset. Et là, vous allez reconnaître, parce que c'est quelque chose de bien connu. Ça nous intéresse, ça, naturellement, ça nous concerne pour nous aujourd'hui. Et Paul écrit ces paroles, 1 Corinthiens, chapitre 3, écoutez. « Car nous sommes ouvriers avec Dieu. » Tiens, le savoir bien faire. « Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. » Écoutez bien la suite. « Selon la grâce de Dieu, la grâce, hein, qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre a bâti dessus. » On n'est pas tout seul, hein, dans cette œuvre. Hein. On se passe le flambeau, la flamme olympique, on pourrait dire. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Eh oui, c'est une question d'être conscient de la valeur de ce qui nous a été confié, de ce qui nous a été demandé. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Le christianisme, c'est essentiellement Jésus-Christ. C'est pas les saints et les saintes, c'est pas Marie, c'est pas tout ce que vous voulez. Tout ce que vous pensez. Tout ce qu'on nous a donné de croire. Ça, c'est plus la foi, c'est les croyances, là. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, pardon. Je passe le négatif et je vais un peu plus loin, verset 14. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Nous en parlerons tout à l'heure des récompenses. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Ce n'est pas pour ça qu'il sera perdu. Il aura perdu la vocation de sa vie. Comprenez ? Oui. Quelquefois, on a très mal interprété ça. Ah oui, bah, il a tellement bâti comme un amateur et tout ça, bah, il va être perdu. Non, écoutez, Paul le dit, si l'œuvre de quelqu'un est consumée, c'est vrai, parce que le travail a été mal fait, il a été fait pour la chair de celui, sa chair, son orgueil, hein, ses titres et ses fonctions, mais c'était pas bon. Il perdra sa récompense, il n'est pas dit qu'il perdra son salut. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers le feu. Là, on le comprend naturellement. On le comprend. Il y a une application à donner à cette parole. Vous êtes des ouvriers avec Dieu. Oui. On ne s'est pas mis dans l'œuvre parce qu'on avait envie. Mais on s'est mis dans l'œuvre, on a été appelé, on a répondu. Avec tout ce qui peut, en effet, eh bien là, être le parcours pour devenir enfant de Dieu dans ce royaume. Royaume de Dieu sur la terre et royaume des cieux à venir, en devenir pour nous. Alors il est bien dit, hein, Il y a un plan. Il faut construire d'après l'architecture qui nous a été donnée, enfin d'après l'architecte et les tracés qui nous ont été donnés. Parce qu'il est bien dit que c'est sur Jésus qu'on bâtit, et non pas sur une religion, qu'elle soit appelée même évangélique, hein, dans un système évangélique, non. Celui qui est véritablement l'auteur de tout et qui est l'objet de tout, c'est Jésus, simplement. Alors il est question, eh bien, du choix de ces matériaux. Il nous est simplement, il bâtit avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses. Eh oui, et nous avons tous les matériaux nécessaires pour construire et bien faire. Une œuvre, comme nous l'avons dit tout à l'heure, dans l'excellence. C'est à nous d'être attentifs dans tout ça, hein, bien sûr. Alors, c'est une chose. Il y a une application que j'aimerais donner à travers quatre exemples. On va les voir rapidement. C'est tout simplement cette parole. Pomme d'or ciselée sur de l'argent. Dans 1 Pierre 1,6, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé à le dire, c'est l'épreuve par le feu. L'épreuve qui est commune, non pas en raison des fautes que nous pouvons faire et des punitions ou des jugements que la vie nous, voilà, nous distribue, mais c'est l'épreuve pour nous purifier, pour nous sanctifier et nous rendre propres à répondre à l'appel de Dieu. C'est à la fois une purification et une consécration. Consécration, ça veut dire mise à part, de côté. C'est pour ça que le mot saint, dans sa perfection, c'est pour le ciel, mais nous sommes aussi appelés des saints, c'est-à-dire que nous sommes mis à part. L'Église est mise à part. Et pourtant, quand on voit toutes les fragilités, quand on voit toutes les imperfections de l'Église, ne nous arrêtons pas à ça, parce que le Seigneur la rendra pure. Il va la transformer. Nous n'irons pas au ciel avec tous nos déchets et tous nos péchés, mais nous irons au ciel parce que quand on va être enlevé, si nous sommes enlevés, si nous passons par l'enlèvement, eh bien, en un instant, en un clin d'œil, nous serons transformés.
Amen.
Eh oui, et c'est vrai. Hein. Donc, c'est la première citation que je faisais tout à l'heure, je le rappelle. 1 Pierre 1,6, l'épreuve du feu. C'est pour ça que nous traversons des épreuves, c'est pour ça que quelquefois on ne comprend pas ce qu'il nous arrive. Mais le Seigneur sait très bien où il nous mène. Il sait très bien, il poursuit, eh bien, cette école, disons une école. Et de ne pas geindre tout seul en disant « mais c'est dur la vie chrétienne ». Mais bien sûr que c'est dur. Mais vous croyez que la vie dans le monde, c'est pas dur non plus? Et là, ils sont sans espérance. Nous, nous avons une espérance. Et nous avons un père et nous sommes ses enfants. Et c'est bien pour ça qu'à travers la discipline qu'on en appelle la discipline divine, Dieu est en train de nous préparer pour notre caractère ici-bas, mais pour notre caractère céleste. Là, il n'y aura pas de péché là-haut. Hein. Il n'y aura pas de mal, hein. Alors on a du mal à s'y faire parce qu'on se dit « mais comment ça peut être quand on connaît ce qu'il y a ici sur la terre hein ?» Eh oui, mais ça, c'est Jésus qui l'a, le Rédempteur, celui qui a expié nos péchés et qui nous dit maintenant et qui nous voit dans la perfection. Il nous voit déjà comme ça. « Pomme d'or ciselée sur l'argent, l'ouvrier et son ouvrage. » C'est ce que nous avons dit en substance il y a quelques instants. Cela nécessite de la compétence et c'est l'école de Dieu. On apprend, on se trompe, mais en se trompant, on apprend encore. On ne baisse pas les bras. Ouais. Combien d'échecs nous avons eus. Même avec nous-mêmes, en disant « mais je suis encore comme ça, j'ai encore cet atavisme, j'ai encore ces vieilles manières, etc. etc. » Ne vous désespérez pas, continuez à persévérer, parce que le Seigneur est avant tout un Dieu de pardon et il va nous rendre finalement comme il veut, et nous donner la compétence que nous avons besoin. On va en parler d'ici quelques instants, parce que j'ai un exemple à vous donner. Compétence et qualité. Troisième point, c'est pomme d'or ciselée sur de l'argent, et c'est ce point-là que j'aimerais voir, c'est tout simplement cet homme que l'on appelle Betsaléel. Ça vous dit quelque chose, Betsaléel? Oh, c'est un nom très connu. Vous souriez, mais c'est pas offensant, hein. Alors, Betsaléel, on va prendre dans le livre de l'Exode. Vous allez voir, hein, c'est quelque chose. Livre de l'exemple. De l'exode, pardon. Non, mais vous mettez les deux ensemble, mais l'exode, c'est quand même un exemple. Hein. Ouais. Vous voulez me prendre au piège, là, hein, quand même. Non, mais ça m'arrive de bafouiller. Donc, vous avez la preuve que je ne suis pas parfait. Eh ben voilà. Bon. Alors, Exode, chapitre 31. Écoutez bien. L'Éternel parla à Moïse, prince d'Israël. Sache que j'ai choisi Betsal et El. Alors, je ne vais pas vous donner ses pères, ses grands-pères, etc., etc. Hein, tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, travailler l'argent, les reins. Ça va en diminuant de valeur. De graver des pierres enchâssées, de travailler le bois, d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab. Alors c'est pareil, j'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que j'ai ordonné, la tente d'assignation, etc., etc. Betsaléel, ah, c'est un personnage dont le nom est resté, ça fait à peu près combien ? 3500 ans ? Eh bien, si votre nom, votre prénom et toute votre identité, on en parle dans 3500 ans, ça sera bien. Hein ? Vous vous rendez compte ? Comme Dieu garde le souvenir et le témoignage. Betsaléel, cela nous parle de l'onction de l'esprit. J'ai mis sur lui l'intelligence. Je l'ai rempli du Saint-Esprit. Ça, c'est l'ancien régime. C'est la loi. C'est finalement, eh bien là, en quelque sorte, nous pourrions dire la dispensation, non pas de la grâce va venir après, mais la loi. C'est le régime de l'Ancien Testament. Et il nous est parlé déjà du Saint-Esprit qui est donné par Dieu, reposant sur des hommes, dans un but tout à fait particulier, c'est l'œuvre de Dieu, c'était le tabernacle. Le temple avant le temple. Le temple avant le temple et avant le vrai temple. Parce que le vrai temple, c'est Jésus. Hein ? Oui, je suis le temple, comme on le chante quelquefois. Hein ? Et nous voyons qu'il y a des qualifications à différents étages. On apprend un métier, on devient un apprenti, après on devient un ouvrier. Et puis on peut certainement parvenir à l'excellence aussi. Hein. Dans le monde, c'est comme ça, que ce soit la cuisine ou l'ébénisterie et puis toutes sortes de choses. Ça fonctionne, hein, ça c'est sûr. Mais là, il y a quelque chose de particulier pour les enfants de Dieu. Dans le royaume de Dieu, aujourd'hui, c'est la Pentecôte nouvelle. Ouais. Et il y a quelque chose qui est important, parce que quand on parlait de vision tout à l'heure, le plateau, c'est l'enseignement, c'est finalement la gestion. Mais là, on parle de quelque chose d'autre. Parce que soit ça monte ou ça descend, ou ça s'effondre. Mais il est question, dans nos églises, pendant des années de gestion. Et on a prêché l'évangile, on a prêché la parole de Dieu. Il y a des gens qui sont venus, qui se sont convertis. Et puis, toutes sortes de choses. Mais maintenant, il nous faut la vision. Et on a besoin d'un réveil. On a besoin que Dieu nous illumine. Parce qu'on peut faire tout avec les moyens que l'on a, la technologie ultra, etc., high-tech, mais on a besoin vraiment d'être instruit par Dieu, par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Il vous rappellera ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit est un consolateur. Le Saint-Esprit, eh bien, est l'Esprit de vérité. Alors, est-ce que nous n'aurions pas finalement à croire à ces paroles ? Hein, dans Jean chapitre 16, c'est Jésus qui les a donnés pour nous. La Pentecôte, elle existe. Et elle a besoin d'être renouvelée. Le parler en langue, où là, le chrétien, individuellement, s'édifie lui-même. Moi, je le dis. Je le dis pour moi-même. Je manque aussi de prier plus souvent en langue. Ouais. Le prétexte d'être à la retraite, ça ne tient pas, hein. Parce que j'ai plus de temps qu'avant, et avant, je n'avais pas le temps, hein, parce que j'avais tellement de choses à faire dans l'œuvre de Dieu, préparer des messages, parce que j'en avais quand même pas mal par semaine. Eh bien, c'est vrai. Moi, je me tiens devant le Seigneur et je dis, Seigneur, je faisais plus avant, alors que j'étais complètement pressuré, alors que maintenant, j'ai le temps, et... alors, on pourrait toujours me dire, mais t'es en retraite. Oui, ben, je sais que je suis en retraite. Et pour nous, c'est la même chose. La retraite, elle sera certainement de l'autre côté maintenant. Ce n'est pas pour ça qu'à notre âge ou à des âges avancés, nous devons travailler encore plus que dans le temps, parce que premièrement, le corps, il ne suit plus. Hein. Il a du mal. Hein. Je peux dire que le traîneau, il traîne. Hein. Et il n'y a pas de neige en plus, hein, ça glisse mal. Hein. Onction du Saint-Esprit, l'onction de Dieu sur nous. Nous avons besoin dans nos églises, moi je pense à Saint-Nazaire et à Redon, nous avons besoin d'être renouvelés, même dans des réunions de prière où nous prions en langue entre nous. Nous prions chez nous, c'est vrai, mais nous avons besoin d'être allumés tout à nouveau.
Amen.
Dans nos réunions de prière.
Amen.
Dans nos réunions de prière. C'est important, si nous voulons voir se lever le soleil de justice, comme la parole le dit. Ouais. C'est une haute qualification. D'ailleurs, on le voit bien, parce qu'avec la venue du Saint-Esprit à la Pentecôte, il y a, en effet, dans ce qui nous est rapporté dans le livre des Actes, il nous est dit que le Saint-Esprit a deux courants. Il y a les fruits de l'Esprit pour le caractère, et il y a les dons de l'Esprit. Et c'est ça, là, ce qui donne finalement de l'autorité. Les dons, mais il ne faut pas qu'il y ait les fruits sans les dons. Et les dons sans les fruits. Ça, c'est important. Haute qualification. Quatrième point, je vais bientôt finir. Parole d'or, 6D sur de l'argent. Alors, nous avons quelque chose qui est très intéressant. C'est ce que nous dit Jésus dans l'évangile de Matthieu, chapitre 25. Ouvrons notre passage, là, dans Matthieu, chapitre 25. Je crois que c'est bien ça, 25, 14. 25 et 14. Voilà. Je vais essayer de couper un petit peu. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et le troisième, etc. 1 talent. Voilà. Alors, il est revenu, ce roi, naturellement, ou cet homme, je ne sais pas, et il est dit ceci. Ainsi, aussitôt, ils se sont mis à faire fructifier les talents, et il est question de son retour, verset 19, longtemps après. Et le Seigneur tarde à venir, mais il vient. Hein. Le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et le Seigneur lui dit, écoutez bien, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup dans la joie de ton maître. Celui qui en avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui en avait reçu 1, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, s'approcha et lui dit, « Je savais que tu es un homme méchant, un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur. » Alors, si c'est la peur qui doit nous motiver, on ne fera jamais rien. Hein. Jamais rien. « Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends-le, il est à toi. » Il ne l'a pas volé, mais il ne l'a pas fait fructifier. Il est resté inerte. C'est resté finalement, eh bien là, dans l'infécondité, dans la stérilité. « Qu'est-ce que vous voulez ?» Et le maître lui répondit, « Méchant serviteur et paresseux. » Donc, il y a la méchanceté et il y a la paresse. Je savais que tu moissonnes, donc je l'ai lu. Je te ferai donc remettre mon argent au banquier. T'aurais dû remettre mon argent au banquier, puis etc., etc. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Voilà. Donc c'était quand même une histoire gravissime. Hein, parce que c'était quelque chose, probablement une valeur et quelque chose qui n'a pas été fait. Hein. Les deux premiers, oui, bon et fidèle serviteur. Et puis le dernier, bah, qu'est-ce que vous voulez? Et c'est pour ça que j'avais posé la question tout à l'heure, pourquoi nous sommes sauvés? Pourquoi Dieu nous a-t-il donné le salut? C'est pour le servir. C'est pas de le servir en quantité, c'est de le servir en qualité. tout simplement, comme nous l'avons lu tout à l'heure, dans, on l'a dit, l'art de bien faire. C'est pas de multiplier, de s'agiter, d'essayer de sauver le monde entier, on n'y arrivera pas, on ne pourra pas. Et dans quel mobile nous le faisons, si c'est doit être fait comme cela? Ben c'est dans le fait de dire, eh bien moi j'ai gagné tant d'âmes, j'ai fait ceci et cela, mais on n'est pas sauvé tout simplement par le mérite, on est sauvé par la foi, uniquement. Amen. Uniquement. Alors, pomme d'or ciselée et de l'argent, il est question maintenant de l'intégrité et de la fidélité dans ce que Dieu nous a confié. Nous avons tous un témoignage personnel. Nous avons tous des aptitudes professionnelles, des dextérités peut-être qui font que voilà, nous pouvons servir dans l'Église, dans des choses qui sont non pas éminemment spirituelles et toujours spirituelles, mais dans des choses qui, quelque part, contribuent à la vie de l'Église. Ah, moi, si je ne suis pas pasteur, eh bien, moi, je ne suis rien. Bon. Souvenez-vous que c'est le Seigneur qui, comme Betsaleel, j'ai mis sur lui un esprit, j'ai mis sur lui mon esprit, une intelligence, afin qu'il soit capable. La capacité, elle ne vient pas de nous, nous dit Paul, elle vient de Dieu. Clair, net, précis. Et je pense qu'il faut avoir de l'honneur dans le travail que Dieu nous a confié. Je finis. Je vous ai dit, viens bon et fidèle serviteur, je te donnerai, etc. Dans l'évangile de Luc, il est dit, alors puisque tu as été fidèle avec ce que je t'ai donné, je te donnerai dans mon royaume du ciel, eh bien, 5 villes à gouverner. 2 villes à gouverner, enfin bon, vous connaissez, vous pouvez retrouver finalement ces textes-là. Donc il y aura quelque chose de l'autre côté pour ceux qui ont été fidèles. Et la fidélité, c'est pas quelque chose de tapageur, hein. Ça se fait dans la douceur, ça se fait dans le silence, ça se fait dans le respect de Dieu et des autres. Il y a d'abord les couronnes. Ah ouais, les couronnes. Ah ouais, moi j'ai un chapeau, mais j'ai pas de couronne. Ouais. Moi je me souviens toujours, et je vous l'avais certainement déjà raconté à Redon, un jour j'avais un frère qui venait du Midi. Il faisait de la collecte des vêtements pour les envoyer en Roumanie. Et puis, il était formidable, avec son accent du Midi, et il était de Carcassonne. Et avant de me saluer, parce que c'est moi qui l'avais reçu pour remplir le camion, c'était à Angers, ça. Et il me dit, mon frère, que le Seigneur, il était tellement content qu'on se voit et qu'on travaille un petit peu ensemble, il dit, que le Seigneur astique votre couronne. J'avais pas de couronne. Qu'il astique votre couronne. Voilà. Puis il faisait le geste comme ça. Alors moi, je me suis touché. Je me suis dit, ben non, mais il manque quelque chose. Eh oui. Enfin, ça, c'est le Midi, hein. D'accord. Bon. Alors, il y a la couronne de vie. C'est la chose essentielle pour chacun d'entre nous. Nous avons déjà, par la grâce de Dieu, reçu la vie ici-bas. Mais elle sera qualifiée d'éternelle de l'autre côté. Ouais. La couronne de vie, la couronne de gloire. Nous avons été humiliés sur cette terre. Et encore, on n'a pas à se plaindre parce que le Seigneur nous a souvent gardés. Hein. Humiliés, mais c'est la gloire. La couronne de justice, c'est celle que Jésus nous a acquise et dans laquelle nous avons cru parce qu'il était mort à notre place. Il s'est substitué à nous. Il est notre substitut. Couronne de justice. Je ne suis plus devant Dieu un pécheur, mais je suis un saint en devenir pour le ciel. La justice, la couronne incorruptible. Ah, quelquefois on se sent souillé, on se sent sale. Eh bien, on connaîtra l'immortalité et l'incorruptibilité. Les récompenses maintenant. Je cite brièvement la manne cachée, cette nourriture que nous trouvons dans l'histoire des Hébreux dans le désert. Ils n'ont manqué de rien, ils avaient de l'eau et ce pain descendu du ciel. Nous avons aussi le pain descendu du ciel, ce que nous allons faire tout à l'heure à travers le repas de Sainte-Seine. Et puis, il y a le caillou blanc. Mon nom sera marqué sur un caillou blanc, pas noir, mais blanc. Un nom nouveau sur ce caillou blanc dont j'ai parlé. Nous aurons dans le millénium, après je ne peux pas en parler, mais toujours est-il, autorité sur les nations avec Christ qui règnera dans cette période de 1000 ans. L'étoile brillante du matin, oui, Vous la verrez. On a souvent vécu des crépuscules dans notre vie, mais ce sera l'étoile brillante qui est le symbole de l'excellence parfaite et totale. Nous aurons un vêtement blanc. Ouais, une robe blanche. Je ne sais pas ce que je vais être, moi, avec une robe. Mais bon, toujours est-il que les dames, vous allez certainement mieux porter ça que moi. Mais toujours est-il qu'on aura un vêtement blanc. Hein ? Un nom qui sera inscrit dans le livre de vie. Vous vous rendez compte de ce que le Seigneur a fait dans tout ce qu'il nous dit ? Un nom dans le livre de vie. Une colonne, je serai, nous serons, une colonne dans le temple de notre Dieu. Dans le ciel, hein, naturellement. Une place avec Jésus. Sur son trône, vous serez assis avec moi dans mon royaume des cieux. Vous vous rendez compte ? Ça sera certainement un trône qui sera large, hein, qui sera grand, probablement. Hein, mais bon, nous vivons avec, eh bien là, notre compréhension anthropomorphique, c'est-à-dire que nous ramenons tout à l'humanité, hein, naturellement. Nous entrerons dans le repos de Dieu. On soufflera. Quel repos céleste. Ouais, ce cantique magnifique. Nous vivrons éternellement. Nous serons sur une nouvelle terre qui aura été foulée, qui aura été roulée, et dans un ciel nouveau. Nous habiterons dans la nouvelle Jérusalem. Vous n'avez jamais visité Israël ? Ben attendez, vous allez y aller et vous y resterez. Hein ? Qui sera faite d'or et de pierres précieuses. Vous vous souvenez du pommeau, là, qu'on a parlé, hein ? D'argent, d'or et d'argent. Nous aurons un corps glorifié. Nous serons sauvés pour l'éternité. Nous participerons aux noces de l'agneau. Vous aimez la noce ? Je vous dis pas faire la noce, mais je vous dis, vous aimez les noces. C'est toujours un moment unique dans la vie, finalement, d'une famille. Eh bien là, nous aurons, dans l'éternité, les noces de l'agneau. Nous verrons, nous serons l'épouse. Nous sommes la fiancée pour l'instant, mais nous serons l'épouse à ces noces. Et puis, tribunal de Christ. Oh, il y a des chrétiens qui se disent, si on passe au tribunal, ça va être terrible. Mais ce n'est pas un tribunal de jugement, c'est un tribunal où nous recevrons les couronnes et que nous aurons la récompense. Non pas, finalement, parce que nous le méritons, mais parce que Jésus a payé le prix de tout cela. L'art de faire le bien, je finis. L'art de faire le bien. Viens, nous dit la parole, viens bon et fidèle serviteur. Alors souvenons-nous de cet emblème que j'ai voulu développer devant vous ce matin. Un pommeau d'or, des pommes d'or ciselées sur de l'argent. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne sa grâce et qu'il nous donne finalement d'aller jusqu'au bout. On va prier si vous voulez, quelques instants. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour ton infinie bonté, Seigneur, parce que tu nous rappelles, autant dans l'Ancien Testament, mais à travers l'éclosion du Nouveau Testament, parce que le Nouveau Testament, c'est véritablement la fleur qui éclot. C'est véritablement le printemps d'une vie nouvelle. Et nous te bénissons, Seigneur, de ce que tu nous as parlé de ces choses. Alors, nous savons, Père éternel, que tout ce qui vient de la parole de Dieu, c'est de l'or et c'est de l'argent. Ce sont des pierres précieuses. Et tout cela déjà pour commencer dans cette vie présente, pour que l'Église soit parée comme une mariée, comme l'épouse, et puis en effet pour celui qui est l'époux, parce qu'il a donné sa vie en sacrifice pour chacun, pour chacune. Et il bénit son Église dans l'attente, eh bien, de cette éternité qui nous est réservée si véritablement nous nous appliquons à chercher l'honneur et la gloire de notre Dieu. Aide-nous, Seigneur, aide ton Église, aide tes églises, aide tes serviteurs, s'il te plaît, Seigneur, à véritablement, Père éternel, travailler de mieux en mieux, oui, Seigneur, de progrès en progrès, et nous te louons, Seigneur, parce qu'en effet, si tu nous as sauvés, c'est pour partager toutes ces bonnes choses. Mais c'est pour que nous te servions ici-bas et que nous fassions véritablement connaître au monde le bonheur qui est le nôtre. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Amen. Amen.